Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse ce matin à 8h39 sur BFM Business et sur MC Live, c'est avec Robin Rivaton. Bonjour, président de Sonal et SCIS. À côté de vous, Michel Martinez, chef économiste Europe chez Société Générale CIB. Bonjour, on commence, Étienne, avec, bon, on peut parler d'autres choses si on veut, mais le gros morceau, c'est quand même SpaceX avec la folie du côté du retail.
De jour en jour, de nouvelles informations. C'est vrai que les Américains sont très forts là-dessus en termes de marketing, dans le sens où SpaceX occupe totalement l'actualité aux États-Unis, avec bien sûr des chiffres qu'on connaît depuis plusieurs semaines, sur les 75 milliards, sur les 1800 milliards de capitalisation attendus. Et puis là, hier, des informations de Bloomberg qui évoquent, en fait, c'est vraiment l'euphorie, dans le sens où toutes les banques aux États-Unis sont sollicitées. Depuis pas loin d'une semaine, vous avez pas mal de roadshows qui se déroulent, avec notamment le patron de JP Morgan, Jamie Dimon. Il a beau dire depuis des semaines que les valorisations sont assez élevées, ça ne l'empêche pas de vendre une société qui se paye plus de 90 fois le chiffre d'affaires. Et in fine, une demande qui est là. Reuters évoque que pour l'instant, vous avez 4 fois l'offre en termes de demande sur cet IPO, sachant que la partie retail n'est pas encore totalement terminée. Vous avez pas mal de banques encore qui vous permettent de participer à cette introduction en bourse, alors que sur la partie institutionnelle, ça s'est terminé en grande partie hier. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Le prix de l'action sera divulgué demain et la première séance, ça sera vendredi.
Bon, Marie-Baton, il y a de plus en plus de papiers dans la presse sur est-ce que c'est minuit moins le quart avant l'explosion de la bulle, c'est n'importe quoi, est-ce que c'est une arnaque pour les particuliers? C'est quoi votre point de vue à vous?
Surtout que le storytelling, comme vous l'avez dit, qui est très bon aux US, hier, Elon Musk a dévoilé son premier data center dans l'espace avec des caractéristiques qui, encore une fois, on verra si ça fonctionne, mais sur le papier sont très impressionnantes et crédibilisent beaucoup cette démarche de dire que demain les data centers seront en orbite et donc évidemment ça amène du grain à moudre pour tous ceux qui pensent que la valorisation d'aujourd'hui sur les 90 fois le chiffre d'affaires, qui évidemment n'a aucun sens, demain sera très rapidement rattrapé par la folle croissance des revenus. Oui, il y a une question qui se pose et qu'on a déjà évoquée ici, c'est est-ce que à un moment cette folie, parce que y compris SpaceX est tenue par la vague de l'IA en sous-jacent, mais elle est tenue par ça. Et est-ce que cette folie va s'arrêter à un moment, tout simplement parce qu'on a commencé à avoir des fissures. Il y a Sam Altman qui, en début de semaine, a reconnu que des entreprises comme aujourd'hui commençaient à se poser des questions sur leur consommation de tokens, sur leur consommation de modèles d'IA. Et donc, ça a créé un petit schisme en disant, oui, c'est vrai qu'en fait, l'incrément marginal, la progression du modèle du passage de Opus 4.8 vers Fable, c'est quelque chose qui va permettre d'être plus efficace pour une très très petite minorité.
Par contre, ça va être beaucoup plus cher.
Mais ça coûte beaucoup 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 plus cher, et que la plupart des usages peuvent être adressés avec des modèles open source ou qui peuvent tourner en local. Et donc la question de est-ce qu'à un moment tout ça va revenir sur des fondamentaux économiques est quand même une question qui se pose. Et je pense que si tout le monde rush pour faire son IPO, c'est pas pour rien.
Alors vous dites Fable. Moi je disais Fable 5 ce matin. Pour ceux qui n'en joignent, c'est donc la version bridée de Mythos qu'on va avoir nous notamment en Europe, où en gros on a enlevé tout ce qui est très méchant, quoi. C'est potentiellement ce qui permet de faire des attaques cyber, ce qui permet de fabriquer des armes biologiques. Et il y aura quand même toujours une distorsion entre ce que les Américains pourront avoir et ce que le reste du monde pourra avoir.
Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez avéré aujourd'hui, qu'il y a un décalage entre les deux. Après, même aux États-Unis, Fable est bridé pour il y a un jailbreak, donc il y a une prison en fait pour l'empêcher de parler des sujets qui sur la cybersécurité ou la fabrication d'armes, effectivement.
Ça se débride ? Non, je sais pas.
On enlève le contourner. Il y a beaucoup de modèles qui ont été jailbreakés depuis toujours, donc c'est pas impossible.
Michel Martinez, vous qui êtes pas le perdreau de l'année quand même, qui suivez l'actualité économique depuis des années, on parle maintenant, on est sur 1000 milliards, on a sur des chiffres incroyables. Quand on est économiste et qu'on regarde ça, désormais, on a des entreprises qui ressemblent au PIB d'un pays. Comment vous regardez ça?
L'économiste va se dire que cette révolution technologique, c'est la quatrième ou la cinquième dans l'histoire. On peut la comparer aux précédentes. Ce qu'on peut dire, c'est le rythme actuel de l'investissement mondial. On parle de 1500, 2000 milliards de dollars par an investis. Si ça dure une dizaine d'années, c'est probablement pas du tout soutenable. Et en particulier, ça impliquerait une croissance de l'économie mondiale d'ici 10 ans de 30 à 50%. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que la France, l'Europe vont croître de 30 à 50% d'ici 10 ans, 3 à 5% par an? Il faut avoir en tête que ces ordres de grandeur d'investissement, c'est presque 2 points de PIB mondial par an. Ça, pour que ça marche, ce soit à succès.
Donc il y a un truc dans le modèle qui ne fonctionne pas, quoi.
Voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que le rythme actuel, ou quasiment sûr, à moins qu'il y ait des gains de productivité colossaux, je parle de 3 à 5% par an, partout, ce qui est sûr, c'est que le rythme actuel d'investissement dans tout ce qui est lié à l'AI, l'intelligence artificielle, va ralentir. Donc il y a effectivement probablement une bulle. La question, c'est quand est-ce qu'elle va exploser ? Personne ne le sait.
Robin.
Oui, on a eu des chiffres sur l'emploi américain qui sont tombés, et on a à peu près la prévision de croissance du Q2. Donc vous prenez l'emploi et la croissance, vous avez les effets des gains de productivité. Les gains de productivité au Q1, ils étaient 0,3%, donc au premier trimestre assez faible, pas du tout en accélération.
On parle aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui. Au Q2, on va être entre 0,5 et 1 si vous faites à peu près cette loi moyenne. Donc c'est très faible, c'est pas du tout. C'est la tendance de long terme, elle est à 2, hein, donc 2,1. US. Donc vous êtes sur la tendance de long terme, on n'a pas d'accélération des gains de productivité, et donc ça veut dire qu'à un moment les entreprises elles ne vont pas pouvoir soutenir la consommation de tokens à l'infini, même si aujourd'hui c'est un tout petit part de leur budget, c'est 0,5% de leurs dépenses totales aux États-Unis. Donc on se dit c'est pas si gros que ça, c'est 100 milliards sur 20 000 milliards de consommation intermédiaire par les boîtes aux US. Mais ces 100 milliards, s'ils ne dégagent pas de la productivité, les boîtes vont faire passer à 50, hein, y a pas de doute là-dessus. Et l'objectif des investissements actuels, c'est pas que les entreprises consomment 100 milliards, c'est qu'elles consomment 1 000 milliards demain. Donc c'est ça l'objectif.
Michel.
Si on fait un parallèle avec les précédentes révolutions technologiques, donc la machine à vapeur, l'électricité, les technologies de l'information et des communications, on a toujours eu cet emballement, l'investissement, d'ailleurs qui est inflationniste, et au départ avec peu de gains de productivité, il y a toutes les entreprises qui se battent, à la fin il y a des gagnants et des perdants, et une fois qu'il y a les premiers perdants qui apparaissent, il y a une forte baisse de l'investissement et les gagnants se consolident.
Donc on attend les premiers perdants là, pour voir quand est-ce que la bulle explose.
Mais les gains de productivité en général arrivent plusieurs années après. C'est pas étonnant qu'on en voit peu en 2025, en 2026. C'est normal. Alors ça va peut-être un peu s'accélérer dans cette révolution technologique par rapport aux précédentes, mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit immédiat. Il faut que les process des entreprises s'ajustent à cette technologie. Et ça prend du temps, ça consomme de la ressource. Donc ça va prendre beaucoup de temps.
En attendant, Étienne, avant SpaceX, on aura les résultats d'Oracle.
Oracle, ça sera ce soir après la clôture de Wall Street. Rappelez-vous, ce titre avait fait le buzz, hein. C'était en septembre. À l'époque, ils avaient émis beaucoup de dettes, hein. Là aussi, on parlait de levée de capitaux qui était historique en septembre dernier. Pour rappel, Oracle, ils ont des data centers et ils mettent à disposition de la puissance de calcul, dont notamment aux GAFAM. Et donc, en plus des résultats trimestriels, c'est un très bon baromètre de ce qui se passe aujourd'hui sur combien ça coûte l'IA, en plus par rapport au début d'année. Comment vous faites aujourd'hui pour installer plus de capacités de calcul? Comment ça se passe pour les permis de construire? Comment ça se passe pour l'électrification? Parce qu'il y a un gros sujet d'électrification, bien sûr, aux États-Unis. Et donc, à ce sujet, ça sera un gros baromètre ce soir après la clôture de Wall Street.
On débriefera évidemment tout ça demain. Et puis demain aussi, réunion BCE avec cette hausse des taux qui est actée, la première depuis 3 ans. Michel Martinez, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est une erreur?
Non, pas du tout. Non. Alors, je crois que le marché anticipe que la BCE va monter deux fois ses taux, un peu plus, peut-être, donc de 2 à 2,5. Donc, celle de demain, elle est actée. Si la BCE monte une fois, elle ne va probablement pas s'arrêter là. Une deuxième est dans le tuyau, comme on dit en septembre. Je ne vois pas pourquoi ce serait une erreur. Ce serait une erreur si jamais si le durcissement monétaire déclenchait une récession dure, avec une forte hausse du taux de chômage, hein. C'est en général le risque quand les banques centrales durcissent leur politique monétaire. Là, on va monter les taux à 2 à 2,5, en termes de taux d'intérêt réel, de conditions financières pour les agents économiques. On peut pas
dire. C'est rien, vous dites c'est rien, ça fera pas monter les taux immobiliers chez nous, c'est.
En fait, les taux d'intérêt, les taux d'intérêt, immobiliers ou à long terme, ils ont quasiment pas bougé depuis un an. Et ce, malgré que il y a un an, on n'anticipait pas de hausse des taux de la BCE, et maintenant, on les anticipe. Donc, les deux hausses des taux de la BCE sont déjà dans les taux longs. Les taux longs, les marchés obligataires anticipent déjà ces mouvements. Donc, il y aura peut-être un peu de mouvement, mais très marginal. Et après, l'économiste, je pense la plupart des agents économiques, raisonnent aussi en termes de taux d'intérêt réel. Peut-être un peu moins pour l'immobilier, mais pour les entreprises, c'est évident. Et en termes de taux d'intérêt réel, on ne peut pas dire que les conditions financières se sont durcies depuis un an.
Et ça va permettre
Elles se sont même plutôt améliorées.
Ça va permettre de taper les anticipations d'inflation un peu élevées ?
Mais oui, le mandat principal de la banque
centrale, ça reste
le 2% d'inflation. Là, depuis que Christine Lagarde est la présidente de la BCE, on est légèrement dessus, 2,3, 2,4% en moyenne. Cette année, on va être à une inflation qui va monter presque à 4% cette année. Et puis, après, il y aura les effets indirects, les effets de second tour avec des hausses de salaire. Donc, il est fort probable que l'inflation domestique reste, on va dire, proche de 2,5 pendant 2-3 ans. Donc c'est quand même c'est pas très confortable pour la banque centrale, et encore une fois, si la BCE monte ses taux à 2,5, après je pense qu'elle pourra dire qu'elle est bien positionnée. Si jamais il y a une mauvaise surprise sur l'activité, elle pourra rebaisser les taux. Si l'activité résiste et que l'inflation ne baisse pas, elle pourra les remonter légèrement. Mais je pense qu'il y a 2,5 compte tenu.
Vous dites ça, Romain.
Oui, c'est
pas, Romain, vous partagez cette analyse?
Moi, je pense que la Banque Centrale Européenne a une politique trop restrictive par rapport à ses concurrentes que sont la Banque Centrale Américaine et la People's Bank of China sur longue période. En tout cas, la création d'un masse monétaire est quand même beaucoup moins rapide en zone euro. Je pense que son sujet aujourd'hui, c'est quand même la tension sur les taux longs et sur les souverains. C'est-à-dire que quand vous avez dans votre zone des États aussi fragiles que la France, qui peuvent être vraiment rapidement asphyxiés quand si les taux longs passent la barre des 4, ouais. Et puis au-delà. Je rappelle juste, on a 120 milliards de dettes cette année qui a refinancé, qui a 1,20. Donc quand on la prend à 4, vous faites le calcul, ça fait quand même un peu de... Et l'année prochaine, c'est pareil, c'est 120 à reprendre à ces taux-là. Donc elle doit regarder ça, et c'est vrai que le durcissement de ces taux courts permet de crédibiliser un petit peu son action là-dessus. Mais bon, je pense pas qu'aujourd'hui, une inflation qui vient de l'extérieur, on n'a pas d'effets de second tour qui sont marqués pour l'instant. On n'a pas une grande capacité de négociation salariale avec des marchés de l'emploi qui sont plutôt en berne sur les grands pays européens. Donc, c'est quand même plutôt en préventif pour crédibiliser qu'autre chose, à mon avis.
Michel ?
Ah ouais, je partage pas du tout ce point de vue. Alors, c'est vrai que le marché du travail se dégrade en Allemagne et en France, mais c'est un peu moins de la moitié de la zone euro. Et le reste de l'économie européenne va très, très fort. Et le marché du travail s'améliore très rapidement. Alors, une des raisons qu'il faut avoir en tête, le taux de chômage, il est un plus bas historique. Alors, peut-être qu'il va monter un peu, il est à 6,2, 6,3, 6,4, mais après, un des points très importants à avoir en tête, c'est la démographie. La force de travail en Europe baisse. Donc, en Europe, si vous créez zéro emploi, le taux de chômage baisse. Mmh. C'est la trajectoire des 5 prochaines années. Si vous créez zéro emploi, sur les 5 prochaines années, le taux de chômage va baisser. Donc, se dire qu'il n'y aura pas d'inflation salariale si l'inflation totale à cause de l'énergie monte à 4, je pense que c'est un pari très risqué pour la Banque Centrale Européenne.
Robin, vous êtes trop franco-français, peut-être.
Oh, bah, le marché, pour le coup, cette analyse démographique, en France, on a le baby boom 2005-2012, hein, c'est le pic des naissances 2005-2012. Ils arrivent sur le marché du travail maintenant. Hein, donc, pour le coup, en France, cette analyse sur la démographie ne vaut pas, parce que si on a juste 150 000 enfants en plus qui arrivent de la cohorte 2005-2012, donc ce baby boom, il arrive maintenant. Et donc, si on ne crée pas d'emplois en France, le chômage augmente.
Oui, mais alors après...
La France n'est pas la zone euro. La France n'est pas la zone euro, certes. C'est quand même un sujet qui est loin d'être anecdotique. Et après, sur les autres pays, en Allemagne, c'est très vrai. L'analyse, s'il n'y a pas d'emploi créé en Allemagne, ça fait baisser automatiquement le taux de chômage. Mais la dégradation actuelle en Allemagne, elle est quand même très, très, très forte. Tous les indices avant-coureurs conjoncturels nous montrent une dégradation forte de l'activité économique. Après, effectivement, les pays du Sud et de l'Est s'en sortent plutôt bien aujourd'hui.
Il faut vraiment être sur BFM Business pour avoir ce genre de débat, Étienne. Nous, on écoute avec
c'est très intéressant.
Avec délice, absolument, ouais. Sur la Banque Centrale Européenne. Rendez-vous demain, on y sera depuis 6h du matin avec Ottker Sulek depuis Francfort. Poursuivre évidemment cette journée de hausse des taux, évidemment prévue pour la Banque Centrale Européenne.